Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show. Sport Show.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le RMC Sport Show. Ce soir, on va pas parler de foot, hein, on va faire une petite heure de respiration, rassurez-vous, tous les dingues de ballon rond. Vous retrouverez l'after ce soir dès 21h, de 21h à minuit, pour évoquer évidemment la course au titre qui va sans doute faire rage demain, puisque toutes les équipes, les quatre équipes confrontées donc à cette volonté de décrocher le titre joueront demain, et on en parlera évidemment tout à l'heure dans l'after avec Timothée Mémon, qui sera aux manettes ce soir. Il évoquera également donc le forfait de Verratti, touché par le Covid et qui ne participera pas demain au match face à Lille, ni à celui face au Bayern en Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais nous, durant cette heure, on va s'intéresser au rugby et au huitième de finale de la Coupe d'Europe, un format un peu compliqué, vous le savez, cette année, en raison de la crise sanitaire. On a raboté quelques matchs, et du coup tous les huitièmes de finale doivent se disputer ce week-end sur un match sec, et malheureusement pas tous les matchs, puisqu'on a appris tout à l'heure que la rencontre prévue ce soir à 18h30 entre le Leinster et Toulon avait dû être reportée en raison d'un cas de Covid dans les rangs toulonnais. Donc à Toulon, on est évidemment très très en colère. On sera dans un instant avec le président du RC Toulon, qui viendra nous dire pourquoi il est en colère. Et puis un match devrait avoir lieu normalement ce soir à 21h. Il va opposer La Rochelle qui va donc affronter le club anglais de Gloucester. Ça se passe en Angleterre, on en parlera avec Nicolas Paolorsi et avec Richard Dourte qui est déjà avec nous. Salut Richard.
Salut Christophe, salut à tous.
Ravi de te retrouver. La semaine dernière, on était là pour évoquer le dernier match du tournoi des Six Nations. On a donc passé cette page, et désormais place à la Coupe d'Europe avec ses huitièmes de finale. Je le disais, un format un peu compliqué cette année, même si moi le format comme ça de huitième de finale sur un match sec, je trouve ça plutôt sympa. On a quasiment toutes les meilleures équipes d'Europe qui sont réunies ce soir, sauf évidemment le RC Toulon. On sera dans un instant avec Bernard Lemaitre. Un mot sur ce format déjà, Richard, est-ce que toi il te plaît de voir des matchs comme ça à la moitié en un match sec pour se qualifier pour les quarts?
En fait, c'est un format qui a dû s'adapter aux conditions sanitaires, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça rappelle un petit peu les phases finales de notre top 14 sur match sec. Ça donne la chance à tout le monde. C'est un petit peu, pour reprendre nos amis du ballon rond qui prennent toute l'antenne avant et après, c'est la Coupe de France, quoi. Mais bon, il y a l'avantage du terrain pour les équipes. Simplement, le terrain sans public, c'est pas tout à fait pareil.
La Coupe de France, je trouve que t'exagères, parce que la Coupe de France, elle oppose souvent un gros,
oui,
du championnat.
Oui, mais c'est un match sec.
Là, t'as quand même les meilleures équipes européennes qui sont.
Je veux dire, dans le format, c'est un match sec. Il n'y a pas de match aller-retour. C'est pas comme en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de but à l'extérieur, etc. Là, c'est pareil. Bon, il a fallu s'adapter. Ça fait des matchs secs en huitième de finale, des matchs secs en quart de finale. Ouais, ça peut être intéressant. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce qu'on tombe sur des joueurs français fatigués du tournoi. Et il faut de suite se replonger dans le grand bain, parce que le niveau européen, c'est juste en dessous du niveau international.
Voilà. Et en plus, les internationaux qui sont donc rentrés dans leur club après le tournoi des Six Nations, ce dernier match face à l'Écosse la semaine dernière, vont être alignés dans l'ensemble au cours du week-end.
Oui,
mais on ne sait pas dans quel état ils vont être.
Alignés, ils vont être. L'état, ouais, on verra.
Ouais, l'état, c'est ça qui fait débat, évidemment. Jeff Paturo est également avec nous. Salut Jeff.
Salut Christophe, salut Richard, bonjour à tous.
Il va suivre lui aussi, évidemment, tous ces matchs. Bon, on va en parler, évidemment. On va commencer par ce match entre le Leinster et Toulon. C'est officiel, hein. Le Leinster est qualifié pour les quarts de finale. Toulon a été obligé de ne pas disputer cette rencontre. On en parlera tout à l'heure avec le président Lemaitre. Les raisons invoquées par le PCR, Jeff?
C'est compliqué, hein, parce qu'il y a un joueur de première ligne qui a été touché par le Covid dans les rangs varois ces derniers jours. C'était mercredi. Sauf que les Toulonnais ont pu voyager en Irlande pour préparer ce match. Et aujourd'hui, ce matin, on a appris que les 6 joueurs de première ligne étaient considérés comme cas contact. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas jouer ce match contre le Leinster, contre la redoutable équipe du Leinster, et que Toulon devait remplacer absolument ces joueurs pour éventuellement disputer cette rencontre au sommet.
Remplacer toute la première ligne, c'est ça.
Remplacer tous les joueurs contact.
Remplacer les 6 joueurs cas contact. contact. Mmh. Autant dire que c'était impossible. Toulon a dit pas possible. Alors que si ça avait été possible, le match aurait pu avoir lieu dimanche. Mais avec cette considération, c'est sûr que le match ne pouvait avoir lieu. Surtout que le gouvernement britannique était visiblement pas très chaud pour accueillir une équipe qui était contaminée par le Covid. Alors que les Irlandais prennent toutes les mesures en conséquence pour éviter de nouveaux cas. Finalement, on a appris que le match était annulé. Ça, c'était en milieu de journée. Il y a quelques minutes, c'est officiel désormais. On sait que Toulon a match perdu sur tapis vert et que Leinster est qualifié. Il faut rappeler aussi que Toulon n'a gagné qu'un seul match dans cette Coupe d'Europe cette saison, puisque les hommes de Bernard Lemaitre n'avaient disputé que la première journée. Le deuxième match contre les Scarlets, Charles Olivon et ses partenaires avaient refusé de le jouer, car il y avait un cas de Covid dans les rangs des Scarlets. Et pourtant, les Scarlets avaient vu match gagné sur tapis vert 28-0. Cette fois, c'est l'inverse, oui. Alors que c'est vraiment très sévère.
Oui, 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 parce que Toulon avait été contraint de jouer par l'organisateur alors qu'il y avait un cas de Covid dans les rangs des Scarlets. Et là, la politique est différente quelques mois plus tard. Cette fois-ci.
Désormais, ils ont voulu montrer l'exemple en disant attention, rien ne peut arriver, on va prendre toutes les mesures nécessaires. Sauf que le joueur contaminé dans les rangs du RCT a été placé à l'isolement mercredi. Il n'a pas fait le voyage et malheureusement, match perdu aujourd'hui. On arrive à une situation extrême et reste à savoir aussi ce qu'aura la valeur du titre de champion d'Europe cette année dans ces conditions.
Oui, ouais, je jouerai après si tu as l'Exeter en finale face à Toulouse ou le Leinster là. Je pense
qu'il y aura d'autres matchs concernés.
Au mois de décembre, janvier, on a à raison donné une leçon à l'EPCR sur le protocole sanitaire, parce que nous en 2014 on avait un bon protocole, on leur a expliqué voilà, comment il fallait faire, voilà, nous on est meilleurs, et ben là c'est le bon moment, quoi, c'est le retour, les Français vous nous avez donné des leçons, mais nous on va vous en donner, voilà, votre équipe de Toulon vous la renvoyez chez vous, etc.
Vous n'avez pas l'impression, Richard, Jeff, qu'on paye aussi peut-être les errements de l'équipe de France pendant le tournoi, en matière de
on
Covid,
paye tout ça là. Les Britanniques, on les connaît. Enfin, moi,
je les apprécie pas
comme ça. J'ai étudié comme ça, mais ils nous donnent des leçons. On a beaucoup à apprendre d'eux, mais ils nous font apprendre aussi beaucoup, quoi. Hein, parce que là, je pense qu'on paye le mauvaise gestion du Covid, l'histoire de Fabien Galthié, de la bulle, etc. On paye les leçons qu'on leur a données en début d'année, décembre, janvier, sur la Coupe d'Europe. Et on avait raison de leur donner des leçons. Ben là, c'est eux qui nous en donnent une. Et c'est pas...
Après,
c'est pas juste.
Si l'équipe ne peut pas jouer en raison de cas de Covid, l'équipe a match perdu. C'est cruel. Ça se passe comme ça aussi en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Les équipes qui peuvent pas aligner une équipe ont match perdu. Mais là, c'est vrai que c'est cruel parce qu'il y a un cas qui ne fait même pas le voyage. Alors qu'en 2014, ça partait de 3 cas.
Le problème, c'est que dans le protocole PCR, le match annulé, si on estime que la tenue d'un match peut être remise en question, par exemple, parce qu'un club a obtenu un ou plusieurs résultats positifs. Un test de Covid effectué 3 jours avant le coup d'envoi. Donc mercredi, c'est 3 jours avant. Donc en fait, ils sont dans leur droit. Donc là, ils ont mis un nouveau protocole en place. Il y a un cas de Covid. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas nous qui décidons le PCR.
Vous imaginez la galère pour quelqu'un comme... La galère pour quelqu'un comme Charles Olivon qui revient du tournoi, qui a déjà connu ses pépins avec l'équipe de France, qui revient en club.
Ouais, puis,
surtout que Lyon a pris une raclée la semaine dernière à Lyon.
Ouais. Les murs voilà, la galère pour Toulon surtout, qui a pris une raclée à 14 contre 15 à Lyon. Voilà.
Bernard Laporte
et le voyage.
Bernard Lemaitre était déjà furibard en début de semaine après ses joueurs, après la raclée contre le Loup. Cette fois, il en veut à l'EPCR et on le comprend.
Il sera avec nous dans une petite dizaine de minutes. On pourra lui poser toutes les questions, évidemment. Le RC Toulon qui, pour l'instant, se trouve toujours en Irlande. Et espère évidemment rentrer au plus vite à Toulon. On va évoquer les autres matchs, hein, avant de revenir sur le cas toulonnais dans quelques instants, et notamment le match du soir qui débutera donc à 21h et qui va opposer Gloucester, le club anglais de Gloucester, à La Rochelle, le Stade Rochelet. On va en parler avec Nicolas Paolorsi, qui n'a pas fait lui non plus le voyage en Angleterre, mais qui va commenter de chez lui. Salut
Nico.
Il est
interdit, il n'a pas le droit d'y aller.
Salut les gars, salut à tous. Et non, malheureusement, pas de pub anglais ce soir. Je suis triste.
De toute façon, les pubs anglais en ce moment, il n'y en a pas beaucoup d'ouverts. Nico, match important évidemment pour La Rochelle, qui est plutôt sur un nuage ces derniers temps. On l'a vu la semaine dernière avec cette très belle victoire soir face à l'UBB. La Rochelle, qui jusqu'à présent n'avait jamais vraiment mis l'accent sur la Coupe d'Europe, mais on a l'impression que cette année ça a changé, d'autant que le tableau qui mène vers le dernier carré semble plutôt possible pour les Rochelais, notamment l'adversaire du soir, Gloucester, qui par le passé a souvent battu la Rochelle, mais qui cette année est un peu en deçà de ses prestations antérieures.
Ouais, ils sont dans le dur les Anglais, hein. Avant-dernier de première chip, 4 victoires, 11 défaites, c'est leur bilan cette saison, même s'ils sortent d'une belle victoire face à Exeter la semaine dernière. Alors, victoire relativisée parce que Exeter, le champion d'Europe en titre, avait fait tourner. Tu parles de la Rochelle et de son ambition européenne nouvelle, on va dire, c'est surtout que les Rochelais, ils commencent à prendre de l'expérience dans cette compétition. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils jouent la Coupe d'Europe. Ils ont été finalistes de la Challenge Cup en 2019, ils ont été quart de finaliste de cette Champions Cup. Ils s'étaient fait battre par les Gallois de Clanecly de très très peu il y a 2-3 saisons. Donc voilà, c'est une équipe qui est en train d'emmagasiner un peu de l'expérience, et puis il y a cette dynamique qui est en train de se mettre en place cette saison. Tu le disais la semaine dernière, grosse victoire 26-11 sur la pelouse d'un concurrent direct pour le top 6, l'UBB, en plus dans un derby. La Rochelle qui est solidement installée à la deuxième place du top 14 derrière Toulouse, avec 4 points d'avance sur le Racing qui est troisième. Et puis quand on voit l'effectif qui est sur le terrain ce soir, c'est quand même très solide. Le banc de touche déjà, Bourgarit, Winnie Antonio, Greg Aldrit, Jules Plisson, Geoffrey Doumerou sur le banc de touche. Donc ça c'est quand même costaud. À la charnière, Carbarlo, Yaya West, Botia au centre, Arthur Retière sur une aile, Dany Prizo qui revient bien au poste de pilier gauche, hein, international. Dany Prizo, il s'était blessé au pouce, il avait été écarté, il commence à bien revenir. Facundo Bosch, l'Argentin au talon. C'est une belle équipe, et sans oublier Will Skelton qui est vraiment une très très bonne recrue, le deuxième ligne. Franchement, la Rochelle est favori ce soir face aux Anglais de Gloucester.
Richard, tu partages l'enthousiasme de Nicolas, la Rochelle favori en terre anglaise face à Gloucester?
Je sais pas s'ils sont favoris, en tout cas la Rochelle est en pleine forme, ça c'est certain. Maintenant, je mettrai un petit bémol sur Gloucester quand même, parce que Gloucester, ils sont mal classés, c'est certain. Ils ont des super joueurs, et toutes les défaites qu'ils ont, à part une contre les Harlequins, ils ont pris une petite rouste, ils perdent de peu, et ils ont quand même gagné aux Wasps, ils ont battu Exeter, c'est une équipe anglaise, ils ont plus que ça à jouer. Voilà, il y a plein de facteurs qui pourraient nous faire ouvrir les yeux et se méfier encore plus de cette équipe de Gloucester, parce que il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est vrai que La Rochelle est sûrement favori par rapport aux résultats des deux équipes, mais moi je me méfierais de cette équipe. Et oui, moi, pour y avoir joué ce stade très champêtre, hein, de Gloucester, alors bon, il y aura pas de public, c'est pas, mais voilà, c'est une belle équipe. Ils ont peut-être deux des meilleurs ailiers européens,
oui, Rhys Amit,
hein, ouais. Et Johnny May, ouais. Voilà, j'espère, hein. Moi, je suis supporter français.
Il est pessimiste, Richard.
Non, je suis pas spécimiste. J'essaie justement de relativiser, parce que moi, je suis pour La Rochelle, bien sûr. Je suis pour tous les clubs français en Coupe d'Europe. On n'est plus en championnat. On soutient nos Français. Mais voilà, je veux pas faire le fanfaron en dire, voilà, La Rochelle va gagner tranquille parce que Gloucester, ils sont 11e sur 12 en championnat et que La Rochelle est premier en top 14.
Tu peux arrêter de faire les fanfarons dans le rugby français, hein.
Il faut pas fanfaronner, quoi. Moi, j'aime pas ça. Je préfère rester humble. Je préfère rester humble qu'on leur mette une belle branlée en étant conscient de la difficulté, plutôt que d'arriver à la fleur au fusil et de rentrer la queue entre les jambes, comme on dit.
C'est vrai, hein, Nico, que les deux flèches aux ailes de Gloucester sont impressionnantes. Rhys Amit, ça a été, c'est pas une révélation parce qu'on savait qu'il était très fort, mais le tournoi, il a survolé le tournoi de toute sa classe dans les rangs gallois. Hein, on rappelle qu'il est vainqueur du tournoi. Et de l'autre côté, à gauche, on a Johnny May, l'un des ailiers les plus rapides du rugby européen, membre évidemment du 15 de la Rose. C'est vrai qu'avec ces deux-là, il va falloir jouer serré, hein, pour éviter qu'ils ne s'envolent sur leurs ailes.
Ouais, c'est tout simplement deux des meilleurs ailiers du monde, hein. On peut dire en ce moment, le gallois et l'anglais, qui s'étaient en plus sacrément tiré la bourre pendant le tournoi, où il y avait eu un essai.
Cette course incroyable.
Ouais, cette course incroyable, les deux face à face, les deux coéquipiers. Il y a aussi le trois quarts centre écossais, Chris Harris, notamment. Non, mais il y a des joueurs très très solides à Gloucester, ça c'est sûr. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de La Rochelle, ça va être un vrai test de caractère, et on va vraiment voir si le stade Rochelais est vraiment en train de progresser, comme on le voit en top 14 ces dernières semaines. C'est dans ce genre de match à élimination directe où on peut vraiment voir qu'une équipe franchit un palier. Et ce soir, si les Rochelais s'en sortent dans un contexte difficile à l'extérieur, il y a la possibilité de recevoir en quart de finale à Deux Flandres contre Sale ou Clanecly. Donc on se dit que c'est vrai, tu l'as dit, le tableau est plutôt dégagé si la Rochelle passe ce soir en vue d'une demi-finale européenne. Et ça serait une première dans l'histoire du Stade Rochelais qui est vraiment en train de s'affirmer dans cette compétition.
Ok, on te retrouve donc tout à l'heure, 21h,
pour
le coup d'envoi de ce match donc entre Gloucester et La Rochelle. Jeff, il y a d'autres rencontres programmées, puisqu'on rappelle que 7 clubs français disputent, enfin il n'y en a plus que 6, hein, puisque Toulon a été donc éliminé sur tapis vert. 6 autres clubs sont donc engagés dans ces 8e de finale. Tu vas nous rappeler les principaux, les noms des 6, hein, on va pas comme ça en cacher un sous la moquette, c'est pas possible.
Non mais c'est vrai que vous disiez, les affiches sont quand même terriblement alléchantes. Il y a un Wasp Clermont demain pour lequel les Auvergnats font peut-être figure de favoris. Bon, même si Richard va dire le contraire, qu'il faut se méfier des Wasps, etc. Mais Clermont.
Il faut faire gaffe, quoi. Peut-être que tous les clubs sont favoris. Toulouse est favori au Munster.
Toulouse n'est pas favori au Munster. Arrêtez.
Ah bon, et pourquoi ?
Pourquoi ? Ça va être compliqué quand même.
Attends, les Toulousains.
C'est aussi compliqué que La Rochelle à Gloucester Clermont au Wasp, c'est pareil. Hein.
Et l'UBB face à Bristol, leader du championnat d'Angleterre, c'est pas difficile.
Non, ils sont pas favoris là.
Non, ils sont pas favoris.
Pour moi, ils sont pas favoris.
Il y a peut-être le Racing favori face à Edimbourg, mais enfin, on sait ce que c'est que d'être favori face aux Écossais. Hein.
Exeter,
champion d'Europe face au Loup. Est-ce que là, on est favori, Jeff ?
Non plus. Non, c'est du 50-50, quoi. Alors oui, on a des bons résultats, oui, on a des équipes qui sont en confiance, mais de là de dire ah, c'est facile, on est favori, on va gagner. Non, on est bien placé. Voilà, on est bien placé.
Il n'y a aucun entraîneur qui l'a dit.
C'est sûr et certain. Puis la Coupe d'Europe.
Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'il faut qu'on fasse.
Je ne suis pas pessimiste, loin de là. J'essaye surtout d'être réaliste. Ouais. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Ouais. Sinon, ça va mal aller.
Tiens, un petit mot. Je ne sais pas si tu as lu l'interview de Greg Townsend ce matin dans Midi Olympique, Richard.
J'ai lu le titre. J'ai pas osé.
Juste le titre, ça t'a énervé.
Sinon, ça m'aurait agacé. Je n'ai pas lu le reste.
Où il explique en fait que les Écossais se sont nourris, justement.
Ouais, mais ça, on en avait parlé.
Et on en avait parlé la semaine dernière. Alors, il y avait le côté français, effectivement, obnubilé par l'objectif de ces 4 essais, de ces 21 points. Et de l'autre côté, des Écossais qui ont été survoltés par le fait que les Français disent qu'ils allaient peut-être leur mettre une rousse.
Tout ça,
tu sais quoi ? C'est la faute à Jeff, évidemment.
Ah bon ?
C'est lui qui allait poser la question aux joueurs de l'équipe de France en leur disant
les gars, 21 points, vous êtes favoris, 4 essais,
21 points.
C'est pour ça que je mesure les paroles, que je suis réaliste. Après, j'ai lu le sous-titre aussi que Greg Townsend là, bon, on le connaît, il a joué à Castres, machin truc, bon, je vais pas être méchant. Il dit que l'équipe de France est à l'image de Galtier. Bon, ça va. J'ai pas lu le reste, ça m'a gonflé. Ils ont gagné, ils ont fait un bon match, mais ils doivent jamais gagner. Hein. Plus d'une étape en touche, c'est fini, quoi. Donc, à un moment donné, il faut mettre aussi un peu d'humilité dans les commentaires, quoi. Et s'ils perdent pas, ils finissent 4e du tournoi. Donc ça joue pas à grand chose, mais il faut rester humble.
Voilà,
donc je suis pas pessimiste, je suis juste réaliste et j'aimerais que tous nos clubs français gagnent, bien sûr.
Évidemment.
Mais ça va pas être facile.
Et on verra ça. Jeff, malheureusement on n'a pas le temps de s'épancher, mais si tu as une affiche à nous vendre, vends-la nous, dis-nous pourquoi il ne faut pas rater ce match ce week-end.
Le Munster Toulouse, ça va être terrible comme match. Il n'y aura pas l'ambiance pour ce match, mais en Irlande, mais ça va être monstrueux. Toulouse qui arrive avec les internationaux qui vont être un peu cramés, un peu fatigués, mais pour Toulouse c'est un vrai objectif. Le Munster, c'est une machine à gagner qui reste sur 16 matchs sans défaite, je crois, à domicile en Coupe d'Europe. Ça va être impressionnant, mais c'est vrai que tous les matchs, c'est pareil. Moi, UBB Bristol dimanche, j'en salive déjà aussi. Hein.
On va se régaler tout au long du week-end en espérant que les matchs aient lieu, puisque le premier rendez-vous donc qui devait opposer tout à l'heure le Leinster à Toulon a été annulé. On en parle dans un instant avec Bernard Lemaître, le président du RCT. Richard Dourt et Jeff Paturo restent avec moi évidemment pour parler rugby. 20h17, vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show, à tout de suite.
RMC Sport Show,
Christophe Cessieux.
20h20 sur RMC, le RMC Sport Show. Nous sommes toujours en ligne avec Richard Dourt, avec Jean-François Paturo, pour évoquer évidemment ces huitièmes de finale de la Coupe d'Europe de rugby qui aurait dû débuter tout à l'heure à 18h30 par la rencontre entre la province irlandaise du Leinster et le RC Toulon, match qui malheureusement n'a pas pu se disputer en raison d'un cas de Covid côté toulonnais, et la décision de l'EPCR de donner match perdu au RC Toulon qui quitte donc la compétition. Nous sommes en ligne avec le président du RCT, Bernard Lemaître. Bonsoir président.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. J'imagine beaucoup de déception de votre part. Et même plus que de la déception, à lire vos premières déclarations, il y a même de la colère. Expliquez-nous pourquoi vous êtes en colère et pourquoi vous avez l'impression d'avoir été floué par le PCR, président Lemaître.
Je suis presque étonné de votre question. Dans ce genre de situation, comment voulez-vous ne pas être en colère?
Ouais.
D'abord, vous venez de dire qu'il y a un joueur qui est positif au Covid. Non, il l'était. C'était mercredi dernier. Mm-hmm. Il a été immédiatement isolé. Donc, dans l'équipe qui s'est déplacée en Irlande, il n'y avait aucun cas Covid. Je dirais même que le PCR exigeait que les joueurs de staff soient retestés hier soir à 20h. Ils l'ont été et les résultats sont tous négatifs. Voilà. Mm. Donc, à nos yeux, comme aux yeux du rugby tel qu'on le joue en France, tel que suivant les règlements de la Ligue nationale de rugby, le match était parfaitement jouable. Et voilà, donc la colère, elle vient du fait que il y a une interprétation différente.
Ouais. Alors le RC Toulon avait déjà été embêté par une affaire de Covid en début de compétition à l'automne dernier, lors d'un match que vous deviez disputer face aux Scarlets, je crois. Vous aviez refusé à l'époque de jouer le match et vous aviez eu match perdu alors qu'il y avait des cas dans le groupe des Scarlets. Donc là, on a l'impression que la politique de l'EPCR a complètement changé et chaque fois, elle vous est défavorable quelque part.
Oui, tout à fait. C'était exactement le cas inverse en termes de contamination. Il y a 3 mois, c'était la contamination existait chez les Scarlets, mais le PCR a jugé que le match était jouable, ce qui était proprement scandaleux. Hein. Et puisque ce sont les joueurs des Scarlets eux-mêmes qui nous ont déclaré qu'il y avait énormément de cas chez eux. Donc, vous voyez, c'était un peu surprenant. Donc, c'est la raison pour laquelle nos joueurs ont refusé de jouer ce jour-là. Là, c'est le cas inverse, et comme je l'ai expliqué il y a un instant, c'est un cas unique, mais qui a été éliminé dès mercredi dernier. Donc, le PCR a prétendu que les autres joueurs étaient potentiellement cas contact. Donc, d'où la nécessité de retester à nouveau la veille du match nos joueurs. Dans la nuit, on a eu les résultats ont été négatifs. Donc, on estime qu'on était en mesure de jouer. Ils ont fait venir 2 experts, l'un de Suisse, l'autre de Grande-Bretagne. Vous voyez, des infectiologues, paraît-il, qui ont estimé que le risque total n'était pas absolument exclu. Alors, ouais. On est dans une situation, vous le savez bien, où le risque zéro n'existe pas. Mais au-delà du problème de fond, si vous voulez, la grosse question, c'est le problème de forme.
Voilà. Oui. Oui, parce que là, l'équipe s'est déplacée en Irlande, à Dublin, ce qui a occasionné de gros frais, et on vous a laissé entendre que vous pourriez jouer jusqu'à la décision finale qui a donc été prise en fin de matinée. Et là, évidemment, il faut rentrer à la maison. Tout ça a coûté cher sans que ça rapporte le moindre sou. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire justement de ce côté-là? Est-ce que vous allez demander un dédommagement? Combien ça coûte un déplacement comme ça pour un groupe professionnel qui se déplace en Irlande en ce moment?
Celui-là, il a coûté particulièrement cher parce qu'on nous a demandé de prendre un avion de grande dimension. Donc, on avait un Boeing de 180 places pour 45 personnes. Vous voyez, c'était du luxe. Donc, c'est un déplacement qui, tout compris, tourne autour de 250 000 euros.
250 000 euros. Et ça, c'est pris en charge par qui? Par le club ou par l'organisateur? L'organisateur ne vous verse aucun subside là-dessus?
Non, quand on joue, il nous verse une indemnité, bien entendu, ouais. Surtout si on progresse dans la compétition, mais là, je crains qu'on touche zéro.
Voilà. D'accord.
Et donc, pas encore examiné ce détail-là. Mais
c'est quand même un détail important, 250 000 euros en ce moment, par les temps qui courent.
C'est un détail important, oui, tout à fait.
Ouais. Bernard, oui. Bonsoir, oui, Bernard, c'est Jeff Paturo. Est-ce que vous pensez attaquer juridiquement le PCR?
Oh, à ce stade-là, c'est un peu tôt. Un peu tôt pour le dire. J'ai besoin d'examiner la chose avec mes collaborateurs. Au moins, peut-être recevoir une indemnité pour un déplacement dont on vient de parler, qui coûte très cher et dont le prix est assumé par le club pour zéro bénéfice. Donc, voilà. Sinon, le PCR est souverain dans ses décisions. Donc, que voulez-vous que j'attaque? Elle peut toujours se réfugier derrière les avis des infectiologues, comme je viens de le dire. Donc, à partir de là, je dirais qu'il y a les angles d'attaque sont très 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 limités.
Ouais. Alors on sait que Toulon est très attaché à la Coupe d'Europe. Le club varois a remporté la compétition à 3 reprises. Vous espériez là aussi faire une belle campagne européenne cette année. Est-ce que vous avez toujours envie de la disputer dans les années à venir, ou vu les conditions et la façon dont vous avez été traité, vous réservez là aussi une décision quant à la participation de Toulon dans les années, dans les éditions à venir?
Oui, tout à fait. Je réserve parce que effectivement, il y a un problème de forme qui est complètement inacceptable. On a l'impression d'être un peu traité comme un Kleenex. Donc, vous venez, etc. Vous allez faire un grand match. Et puis bon, maintenant, vous pouvez repartir. Bon, ça, c'est à peu de choses près. C'est très, très mal ressenti par le staff, par les joueurs. Il y a une espèce de révolte. Et zéro envie de revenir dans ce milieu. Voilà.
Mm-hmm. Richard,
bonsoir président. Je vais avoir ma réponse pour l'avenir.
D'accord. Oui. Richard a une question pour vous,
président. Bonsoir, oui. Président oui. Richard Dourte.
Bonsoir, Richard.
Est-ce que ne pensez-vous pas payer un petit peu les déboires de votre prédécesseur avec le PCR au niveau de Toulon? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y avez songé? Est-ce que vous payez pas un petit peu les pots cassés auparavant?
Pas impossible, Richard.
C'est de façon cachée, mais.
Oui, c'est évidemment voilà. Une question qui vient naturellement à l'esprit. Oui, tout à fait. D'autant plus que l'affaire précédente avec les Scarlett a été un petit peu violente. Ouais, j'ai eu des échanges un peu violents avec le directeur général de la PCR. J'ai même pu prouver pièce en main qu'il avait menti. Donc, c'est dire que ça a été violent. Et ça, je pense qu'il l'a pas bien encaissé. Donc il est possible que ça joue.
Parce que la sanction, elle est brutale et très sévère. Et bon, ils vont s'appuyer derrière les textes qui sont en leur faveur. Mais franchement, il y a de quoi déclarer que le match est jouable, quoi. Voilà, c'est tout. Peut-être que si ça avait été un autre club, ma question elle est là aussi. Si ça avait été un autre club, est-ce que vous pensez que le match aurait été annulé et perdu sur tapis vert? On le saura jamais.
Je peux pas l'exclure.
Alors je l'exclus pas pour vous, voilà.
Président, il y a eu aussi cette histoire de Covid au sein du 15 de France qui a un peu heurté les consciences, les bonnes consciences anglo-saxonnes et britanniques. Là aussi, est-ce que vous payez pas aussi finalement les errements de la Fédé, de l'équipe de France en matière de Covid ces dernières semaines?
Tout ça peut jouer, tout à fait. Ça peut jouer, j'en suis persuadé. Et puis, bon, le problème, c'est que, vous savez, le PCR, c'est un organisme qui est dominé par les Britanniques. Il a été fondé par eux.
Mm-hmm. Hasard.
Dominé par eux. Bon, et vous connaissez, Richard le sait particulièrement, que le vieil antagonisme, les grandes différences entre les Britanniques et les Français, ça existe toujours.
Ouais. Chasser le naturel et revient au galop.
Voilà, exactement.
Bon, président, ça évidemment arrive au mauvais moment, alors que Toulon avait besoin de se rassurer. Hein. Je pense que vous étiez même intervenu dans la semaine pour redresser un peu tout ça, tirer un peu quelques bretelles. Il va falloir donc attendre même pas la semaine prochaine, puisque du coup vous disputerez pas les quarts de finale. Donc tout ça n'arrive pas au bon moment. Évidemment, ça arrive jamais au bon moment ce genre de choses, mais là encore un peu plus peut-être.
Oui, on était parti pour faire un grand match, je dois vous dire. Et puis alors, avec une équipe extrêmement complète, il manquait quand même deux joueurs.
Extrêmement solide, oui.
Extrêmement solide, très très beau paquet d'avant. 6 joueurs de l'équipe de France quand même dedans, hein, mm-hmm. C'est rien. Donc effectivement, ça augmente la frustration. Les joueurs étaient décidés à frapper un grand coup. On ne sait jamais comment les choses peuvent se passer, hein, même devant une équipe comme le Leinster. On sait très bien que personne n'est imbattable, hein, dans un grand jour, un grand moment. Donc on va se réfugier dans, si j'ose dire, dans le top 14. On a 6 matchs très importants à jouer et on va essayer de jouer le titre. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, président Lemaire.
Merci, président.
Et merci d'être venu au micro de RMC pour exprimer donc votre colère après donc que Toulon ait eu match perdu face au Leinster à la suite d'un cas positif jugé dans la semaine, même si le joueur, nous a dit le président, n'est plus positif à l'heure actuelle. 20h30 sur RMC. Voilà pour le rugby. On va remercier Richard et Jeff qui ont fait une petite intervention d'une demi-heure.
Merci.
Oh, c'est bien ça, une petite demi-heure et on repart devant.
On prend ce qu'il y a à prendre.
Et voilà. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. fond, les garçons. Très bien. Merci à tous les deux, en tout cas.
Allez,
à
moi.
On se retrouve tout au long du week-end, évidemment, pour tous ces matchs de Coupe d'Europe. On retrouvera dans une petite demi-heure maintenant Nicolas Paolorsi pour la première rencontre entre Gloucester et La Rochelle. Et puis, il y aura d'autres matchs, évidemment. Demain, Munster-Toulouse, ce sera à 16h. Exeter-Lyon, ce sera à 18h30. Et puis, évidemment, le premier match à 13h30 entre les Wasps et Clermont. Voilà pour le rugby. Dans un instant, on va s'intéresser au cyclisme avec là aussi un grand événement qui nous attend ce dimanche, le Tour des Flandres, l'un des monuments évidemment. Et il faut en profiter de ces monuments parce que Covid oblige, un autre monument a été reporté à une date ultérieure au mois d'octobre, Paris-Roubaix, qui ne pourra pas avoir lieu dimanche prochain. On parle de tout ça avec Arnaud Souk et on va également accueillir Marc Madiot qui doit être bien triste, hein, lui le passionné de Paris-Roubaix. Heureusement, il lui reste le Ronde van Vlaanderen. Ce sera dimanche. On en parle avec Arnaud Souk et Marc Madiot dans un instant.
RMC Sport Show.
Christophe Cessieux.
En attendant le premier direct de ce vendredi soir, le premier et le seul direct d'ailleurs, ce sera à 21h, le match de Champions Cup de rugby entre Gloucester, le club anglais de Gloucester, et les Français du Stade Rochelet. Ce sera tout à l'heure à 21h avec Nicolas Paolorsi. On n'a pas beaucoup parlé de rugby, on va s'intéresser maintenant à un autre événement marquant de ce week-end, Pascal, le Tour des Flandres qui aura lieu dimanche à la 105e édition de Ronde van Vlaanderen. C'est comme ça que disent les Flamands.
Hein, oui, alors ils ne le disent pas avec autant de van Vlaanderen.
Ah oui, avec le petit R qui
Vlaanderen.
Tu l'as bien.
Je commence à être un peu flamand.
Un vrai flahut. Il faut dire que tu passes un peu de temps quand même, Arnaud, ces derniers temps dans les Flandres.
Oui, mais pour mon plus grand bonheur.
Exactement.
Un beau pays de vélo, une belle terre de vélo également.
Et puis là, on arrive au bout de ce que les Belges appellent la Semaine Sainte.
Absolument.
Avec ces épreuves qui ont lieu quasiment tous les deux jours.
On a eu le Grand Prix E3, on a eu Gonvevelgem, on a eu à travers la Flandre en milieu de semaine et le Tour des Flandres.
Ouais.
Monument.
On pourrait presque faire un classement général des Flandres pendant une semaine, même un peu plus, puisqu'elles ont débuté un peu avant, même s'il y a eu
Il y a eu d'autres courses avant, mais tu sais, ils s'en amusent d'ailleurs, les coureurs. Ils disent en gros, nous on est bien, on est dans notre hôtel, dans notre QG, on a une course tous les deux jours. C'est encore mieux que le Tour de France, parce qu'en plus on a de la récup entre les courses. Donc franchement, c'est un moment de la saison que les coureurs vraiment aiment beaucoup. Alors tout le monde n'a pas un profil forcément de Flandrien, parce qu'on va le voir, ce sont des courses quand même très très typées, très typiques, mais les coureurs, en tout cas qui aiment ça, aiment être dans leur hôtel en plein milieu des Flandres à ce moment-là.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est en tête du classement général des Flandres en ce moment, parce que les vainqueurs de toutes les courses sont des vainqueurs différents. Il y en a pas un qui s'est imposé comme étant le patron avant le début de ce Tour des Flandres, même si évidemment il y a des grandissimes favoris, on va en parler dans un instant. Mais la course semble quand même assez ouverte.
Donc Kasper Asgreen qui gagne le Grand Prix E3. On a Wout van Aert qui gagne Gent-Wevelgem à travers la Flandre, qui a été remportée par Dylan Van Baarle. Là-dedans, je n'ai cité qu'un seul des trois immenses favoris, Wout van Aert, pour dimanche. Ça veut dire qu'il y a d'autres coureurs comme Mathieu Van Der Poel, comme Julien Alaphilippe, qui sont également capables de l'emporter. Et d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel l'avait fait l'an passé sur le Tour des Flandres. Donc oui, on a un plateau absolument monstrueux. Et puis là, on a cité 5 noms, mais on pourra en citer 15 de plus.
Ouais. Évidemment. Un petit mot quand même. Raconte-nous l'ambiance du Tour des Flandres, qui sera forcément différente ce week-end, car les Belges et les supporters n'ont pas eu l'autorisation de se déplacer dans les monts, qui évidemment hérissent le parcours de ce Tour des Flandres. Mais habituellement, c'est une véritable fête nationale.
Hein. Oui, la phrase, en Belgique, ils disent, en France, vous avez le Tour de France, nous on a le Tour des Flandres. Ça résume à elle seule l'état d'esprit des Belges. Il y a 12 millions de spectateurs sur les routes du Tour pendant 3 semaines en été. Sur le Tour des Flandres, c'est 1 million revendiqué par les organisateurs en une journée sur un parcours qui fait 250 kilomètres. C'est tout simplement monstrueux. Et puis, ce public, il est chauffé à blanc. Il vient pas juste le dimanche, il vient aussi traditionnellement le samedi pour la cyclo-sportive qui se déroule également pour les amateurs sur le même parcours que les professionnels. Le public vient applaudir ces cyclotouristes. On vient en famille, on vient entre amis. Enfin, c'est génial. C'est dans une ambiance absolument... Alors, je vais pas faire une apologie de l'alcool du tout, mais on aime bien se mettre des petites pintes de bière, la petite Coirmont d'ailleurs, dans le vieux Coirmont justement, avec des frites, avec des gaufres. Enfin bref, c'est vraiment une ambiance, c'est assez exceptionnel en fait. Il faut le voir pour comprendre, et je pense que ça a même pas grand chose à voir avec ce qu'on peut trouver dans la meilleure ambiance du Tour de France. Enfin, c'est encore quelque chose au-dessus.
Et par rapport à Paris-Roubaix qui a lieu une semaine plus tard, c'est le même genre d'ambiance.
C'est les Belges finalement qui viennent sur les routes de Paris-Roubaix. Donc oui, on retrouve les. Alors, je dirais quand même que c'est un petit peu différent, parce que ils viennent dans un autre état d'esprit. Ils viennent avec, alors c'est les Néerlandais, les Belges qui viennent sur Paris-Roubaix avec leur camping-car aussi, beaucoup. Alors ils viennent pas que avec leur camping-car, mais il y en a qui viennent carrément faire du camping et qui arrivent des jours et des jours à l'avance. Alors que là, sur le Tour des Flandres, bon bah c'est quasiment tout le monde est à la maison, quoi. Donc, mais il y a une vraie culture vélo au-delà de ça. Dans les Flandres, enfin, il suffit juste de rouler sur la plus grande nationale possible. Bah, il y a deux pistes cyclables dans le sens nord, dans le sens sud, des deux côtés de la route. Enfin, nord, nord, sud, est, ouest. Enfin, vous m'avez compris. Il y a des pistes cyclables dans les deux sens. Séparés de la route qui permettent aux cyclistes eh ben voilà tout simplement de rouler, et c'est ça sur toutes les routes en Belgique. Il faut bien le comprendre, c'est une culture vélo peut-être qu'on n'a pas autant que ça en France.
Ouais, c'est la même chose évidemment qu'aux Pays-Bas, où le vélo est encore plus le moyen de transport favori des citoyens de cette région. Alors, parlons maintenant des favoris. On l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un plateau incroyable. Hein. On regardait tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, la liste des engagés. Il y a tous les cadors. Tous les cadors sont là, évidemment. Mais parmi les cadors, il y en a quand même trois qui sortent du lot. Trois garçons qui ont vraiment dominé le début de saison, qui là, sont peut-être un peu moins... saignant qu'il l'était, en tout cas pour Van Der Poel et Alaphilippe, mais peut-être se sont-ils réservés pour cette course. Hein, les trois favoris, on va les citer, c'est ceux qui étaient justement dans le final il y a de cela quelques mois, puisque le Tour des Flandres avait été reporté en raison du Covid, à savoir un Français avec un maillot arc-en-ciel.
Voilà, le numéro 11, Julien Alaphilippe, un franco-néerlandais avec lui un maillot tricolore de champion des Pays-Bas.
Oui, mais pas dans le bon sens.
Mais pas dans le bon sens, qui s'appelle Mathieu Van Der Poel et qui, on le dit, on le répète, mais parce qu'on aime bien aussi, ça fait partie de notre patrimoine, c'est le petit-fils du regretté Raymond Poulidor. Il sera donc dossard numéro 1 dimanche. Et puis le 31, c'est Wout Van Aert. Lui, ça sera l'immense favori, peut-être un petit peu plus que Van Der Poel.
Alors, je ne sais pas si tu as lu l'interview de Walter Godfroot, ancien grand champion flamand dans l'équipe cette semaine. Il disait... Van Der Poel, il ressemble beaucoup plus à son grand-père qu'à son père. Donc son grand-père, c'est Raymond Poulidor, dans sa façon de courir et cette hargne.
Et il l'a encore payé cette semaine, parce que c'est vrai ce qu'on aime bien aussi avec ce Mathieu Van Der Poel, c'est ce côté un petit peu non calculateur, finalement, dans un cyclisme où tout est calculé au gramme près, au mètre près, à la seconde près, où les directeurs sportifs disent t'attaques à tel moment. Lui, il en a rien à cirer. Il est dans une équipe de deuxième division, qui est une très bonne équipe, hein, par ailleurs, mais qui est une équipe quand même où il y a peut-être moins d'intérêt, que le seul intérêt de Mathieu Van Der Poel. Sur l'Amstel Gold Race, quand il gagne en 2019, il attaque à 50 bornes de l'arrivée, il est repris, finalement, c'est Alaphilippe qui y va. Lui, il se démonte pas jusqu'au bout, il sprint et il va doubler tout le monde sur la ligne. L'année dernière, sur le Tour des Flandres, c'est pareil, donc avec Alaphilippe et Van Aert, ils sont partis à 50 bornes de l'arrivée. On l'a vu plus récemment sur Tirreno. Souviens-toi cette image, souvenez-vous si vous avez vu, eu la chance de voir Tirreno Adriatico, une étape où il part, il dit moi j'avais froid donc j'ai attaqué, en gros j'avais froid donc j'ai attaqué pour me réchauffer à 100 bornes je crois de l'arrivée, où il arrive finalement devant Tadej Pogacar, il garde 5 secondes d'avance. Ouais. Il est tellement
il a attaqué à 50 bornes je crois, un peu plus de 50 bornes.
Il est tellement fatigué, tellement vidé qu'il s'écroule sur la ligne, il a même pas la force de lever les bras, et on l'a revu cette semaine, c'est ça aussi qui le rend humain, Mathieu Van Der Poel, on l'avait vu au Mondiaux à Rogate aussi en 2019, c'est qu'à tout moment ça peut être le blackout, c'est-à-dire que il donne tout et à tout moment ça peut être le blackout.
Il y a plus d'essence dans le moteur et ça s'arrête.
En milieu de semaine à travers la Flandre, est-ce qu'il s'était passé au championnat du monde en 2019.
Un petit mot des autres favoris, on va accueillir Marc Mazou dans un instant. Wout Van Aert, c'est celui qui semble le plus en forme hein, des trois, je sais pas si tu partages
Ce qu'il a fait sur Gent-Wevelgem la semaine dernière, c'est quand même assez exceptionnel hein. On a senti que en fait il y avait lui qui était sur une planète et puis il y avait les autres qui étaient sur une autre planète qui était même pas dans le même système solaire en fait. Il a battu grosso modo 5 sprinteurs au sprint après 250 km sur Gent-Wevelgem.
C'est-à-dire que c'est le meilleur sprinteur au bout de 250 bornes c'est vrai que c'est pas les mêmes sprints.
C'est pas les mêmes sprints, mais lui, voilà, il est imbattable. Et puis, enfin, je veux dire, il y a trois. Je vais pas dire trois classes d'écart parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a vraiment une grosse différence à ce moment-là sur cette classique-là. Il semble être au-dessus. Il a aussi été bien vexé l'année dernière de se faire doubler au sprint justement par Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Donc, il a un sentiment de revanche.
Dernier mot, notre Français champion du monde. On se souvient de sa mésaventure l'an dernier, sa chute, sa fracture, alors qu'il était dans le coup pour aller viser la gagne. Il vient avec une idée de revanche.
Non, alors justement, la question lui a été posée. Est-ce que tu viens avec une idée de revanche? Non, il n'y a pas d'esprit de revanche, c'est derrière moi, les conditions sont différentes, la course sera différente, c'est un mauvais moment pour moi et l'équipe, mais c'est oublié, et nous sommes très motivés, ce n'est pas une revanche, je ne pense pas à si j'avais pas chuté, qu'est-ce que j'aurais fait, peut-être aurais-je attaqué dans le Paterberg puis gagné, c'est la vie, j'ai récupéré, c'est comme ça. Il va de l'avant, notre Julien Alaphilippe, et on a eu un échange aujourd'hui, les journalistes ont eu la chance d'avoir un échange avec lui pendant une trentaine de minutes, toujours très intéressant parce que Même lui, c'est pareil, quand il parle, finalement, il ne calcule pas. Alors, c'est parfois un petit peu policé, mais on apprend toujours des choses. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'on va apprendre des choses avec Marc Madiot, à ton avis ?
En général, on apprend des choses avec Marc Madiot.
Quand il a envie de parler, oui. C'est pas toujours le cas.
Hein. Des fois, il nous raconte
temps, il fait
petits...
un peu son...
Moi, j'aime bien quand il nous raconte des petits souvenirs.
Oui, voilà, oui, mais ça, il faut que les micros soient coupés. Alors là, les micros sont ouverts. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, messieurs. J'en ai
salut,
Marc. Entendu, hein.
Ça va, Marco, en pleine forme ?
Bah écoute, oui, en forme, un peu perturbé avec tout ce qui se passe en ce moment.
Ouais.
Le report de Paris-Roubaix entraîne d'autres conséquences pour d'autres épreuves et de nouveaux reports. Donc on est dans une spirale un peu négative dans la mesure où, comme Paris-Roubaix est une course phare, les autres s'inspirent de ce qui se passe pour Paris-Roubaix et prennent peut-être un peu plus rapidement ou un peu plus facilement la décision de reporter des épreuves. Donc là, je suis assez inquiet pour les courses en France sur le mois de mai et les premières semaines de juin.
Ouais. Alors, on rappelle, donc Paris-Roubaix reporté au mois d'octobre, alors que le Tour des Flandres, lui, va pouvoir se dérouler normalement ce dimanche. Ton avis sur la question, est-ce que les autorités françaises ont fait preuve de trop de sécurité, à ton avis ? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement que de reporter cette épreuve, Marc ?
Ben moi, je suis pas politique, je suis pas élu.
Donc, tu peux ouvrir ta gueule.
Je suis pas préfet. Donc, c'est à eux de décider. On vote aux élections pour cela. Donc, ils ont pris des décisions. Il faut les respecter, les assumer et faire avec. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. La chose dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes de cyclisme, on sait faire des courses avec la Covid. Malheureusement ou heureusement, tout dépend à quel moment on se situe, mais on sait faire, on sait mettre la bulle en place, on sait tester, contrôler, isoler si besoin est. De ce point de vue-là, on aurait pu faire Paris-Roubaix. Mais après, moi, je peux aussi entendre et comprendre que les politiques et les gens qui sont aux manettes et aux prises de décision puissent dire c'est quand même un peu particulier pour Paris-Roubaix, il y a quand même un public qui peut éventuellement être un peu trop nombreux. Sur les autres épreuves, on n'a pas eu de soucis particuliers sur toutes les épreuves du début de saison jusqu'à Paris-Nice. Il n'y a pas eu de difficultés majeures. Les autres courses qui ont suivi, il n'y a pas eu de difficultés non plus. Ce qu'il faudrait pas, c'est que le fait qu'on reporte Paris-Roubaix entraîne des reports en cascade. C'est ça, mon appréhension.
Mais
bon, après, les gens qui sont là, il y a des gens qui sont là pour décider, ils décident et puis on applique.
Mais c'est quand même révélateur d'un état d'esprit aussi par rapport à ce qu'est le vélo en France et ce qu'il est en Belgique, parce que aujourd'hui.
Je crois pas que ce soit lié à l'histoire du problème du vélo. Je pense que.
Non, mais en tout cas, le vélo en Belgique a une place dans le cœur des politiques belges qu'il n'a pas.
J'ai été en Belgique, j'ai eu quelques informations. Le spectateur belge sur le bord de la route qui n'est pas devant sa maison, c'est 250 € direct. Voilà, point final. Donc, j'ai pu constater sur les épreuves belges que tout était respecté.
Pas grand monde sur
la lettre. Hein. Mais les gens font gaffe. Hein. Et pourtant, c'est des passionnés de vélo. Après, chacun voit midi à sa porte. Le préfet du Nord a sans doute eu des appréhensions que je peux comprendre.
Oui, bien sûr, on peut comprendre. Hein,
voilà,
on est dans une situation compliquée quand même. Hein.
C'est certes, à quelques kilomètres d'écart, on court et de l'autre côté, on ne court pas. Mais vous savez, l'année dernière, pendant le premier confinement, on ne roulait pas en France et on roulait en Belgique. On était déjà un peu dans la même situation. Mais à l'inverse, derrière, quand on a repris en France au mois d'août, on a fait toutes les courses qui ont pu être réorganisées. Donc bon, vous voyez, il y a des appréciations et des décisions qui peuvent varier d'une frontière à l'autre. Moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans ces débats-là. Je pense qu'il faut plutôt se mobiliser et se concentrer sur le fait de permettre aux courses de moindre niveau, de moindre importance au niveau du public, de s'organiser pendant cette même période Covid, puisque, je le rappelle, il y a un décret ministériel qui dit que le sport professionnel peut se dérouler pendant cette même période. Donc, il faut essayer de mobiliser et de dynamiser le fait qu'on puisse quand même courir des épreuves de moindre importance qui permettent aussi aux coureurs de travailler. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que pour l'heure, le Tour de France est maintenu au mois de juillet.
Oui, mais là aussi, on commence un peu à s'inquiéter quand même.
Il y a un vrai risque, parce que imaginons, là, il y a une, et c'est ce que je crains le plus, c'est qu'il y ait une réaction en cascade à la suite du report de Paris-Roubaix de toutes les épreuves du mois d'avril-mai, et on va se retrouver en culotte courte pour pouvoir aborder le Tour de France dans de bonnes conditions. Vous voyez, les réactions en cascade ont de grandes conséquences. Donc là, il n'est pas trop tard, mais il faut faire très attention, très attention à cela. Et je peux comprendre que des organisateurs qui sont des bénévoles et qui fonctionnent sur le mode associatif puissent se dire bon, on reporte, mais à force de tout reporter, on ne sera plus en état, par exemple, de faire le Tour de France.
Ouais. Un petit mot, Marc, de ce Tour des Flandres, hein, que tu n'as pas remporté. Tu as remporté deux fois Paris-Roubaix, mais pas le Tour des Flandres. On le disait avec Arnaud.
Tu fais de belles places, par contre.
Ah oui, quand même.
Ouais, 5-6e.
Ah oui. Est-ce que tu étais passionné autant par cette course belge que par l'Enfer du Nord? Et quelle est la différence fondamentale pour toi entre ces deux monuments, hein, qui se suivent à une semaine d'intervalle, qui se déroulent finalement à quelques kilomètres de distance et qui sont vraiment deux épreuves que tout le monde adore. La différence fondamentale entre les deux, et ta préférence va vers laquelle?
Il y a deux différences. Il y a une première au niveau des pavés. Dans les Flandres, c'est des distances sur les pavés moins longues et sur des pavés moins détériorés. Par contre, on a des secteurs pavés en montée, dans des petits chemins avec des pentes avec un fort pourcentage. Il suffit de regarder le Koppenberg, le Vieux Coirmont, etc., pour se rendre compte que c'est un effort un peu différent. C'est beaucoup plus punchy sur les Flandres, ouais, que ça ne l'est sur Roubaix. Roubaix, c'est la force, c'est l'endurance, c'est la résistance. Sur les Flandres, il faut être punchy sur 30-40 secondes d'effort, sur des moins pavés, et surtout, autour des Flandres, il faut un placement exemplaire. On ne peut pas se permettre d'être 10 places trop loin. Sur Roubaix, quand on a un petit décalage de placement, on peut se récupérer et c'est moins pénalisant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point déterminant entre les deux courses, c'est la ferveur du public, c'est l'ambiance de la course. Paris-Roubaix, c'est un public plus passif, on va dire. Quand vous allez dans les Flandres, c'est jour de fête, c'est jour de communion solennelle. Moi, je me régalais chaque année en étant suiveur sur les routes du Tour des Flandres, en constatant que sur chaque mont, il y avait les différentes couches de la société flamande. C'est-à-dire que sur les monts les plus prestigieux, vous aviez la bourgeoisie qui était avec la flûte de champagne et les petits fours dans des chapiteaux bien aménagés, chauffés avec les écrans géants. Et puis, quand le niveau de prestige des monts diminue, eh bien, on se retrouve avec les classes populaires et avec notamment les jeunes. Vous avez des endroits où vous avez un DJ et c'est de la musique techno qui est diffusée sur le bord de la route. Et là, vous avez un public extrêmement jeune. Hein. Et sur d'autres monts, c'est les bourgeois, un peu d'ouvriers dans d'autres monts, un peu d'invités. Et on retrouve toutes les couches de la société flamande sur les différents monts. Et ça, c'est quand même très particulier à ce pays. En France, on est beaucoup plus mélangé. Le public est le même tout au long du parcours. Il est sûrement moins connaisseur, moins impliqué qu'il ne l'est en Belgique. Et le jour du Tour des Flandres en Belgique, il y a beaucoup de gens qui dépassent un petit peu les règles de circulation entre les monts et sur les routes, parce que c'est en fait dans un périmètre extrêmement restreint. Les forces de police n'interviennent pas. Il y a une tolérance. Il y a une tolérance qui n'existerait pas chez nous. Quoi. Voilà, c'est très particulier. Par exemple, sur le bord de sur tous les monts, c'est des endroits très festifs et on laisse les gens faire la fête. Et bien évidemment, il y a la bière, il y a le champagne, il y a tout ce que vous voulez. En France, un jour, j'en ai parlé avec nos amis d'ASO, je leur disais, mais pourquoi vous n'organisez pas la même chose par exemple,
à Rambert,
une grande fête et tout, mais t'imagines pas. Un, d'abord, c'est pas notre métier, puis deux, c'est trop compliqué, les autorisations, la distribution d'alcool, enfin, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que on est tout de suite dans un monde différent.
Ouais. Très bien. Eh ben, on a hâte de redécouvrir cette ambiance, même si évidemment l'ambiance ne sera pas la même ce dimanche, Arnaud.
Juste Marc, très rapidement, Groupama FDJ misera sur Stéphane Kung dimanche.
Et oui, Arnaud Desmarres n'est pas là.
Et
hein.
Puis Arnaud Desmarres n'est pas là. Ouais. Et Valentin Madouas sera là également. Donc le petit jeune qui avait fait une belle course l'année dernière.
Ouais.
Il avait terminé 13 ou 14e, si ma mémoire est bonne. Donc on ne désespère pas qu'il progresse dans le classement cette année. Maintenant, bon, il y a deux monstres et un outsider de première main avec Alaphilippe. Mais les deux monstres, c'est comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Vanderpool et Van Aert. Ils sont vraiment une jambe au-dessus, a priori.
Ouais.
Sauf incident de parcours. Donc on devrait avoir la revanche de l'édition 2020.
Eh ben, on va se régaler ce dimanche. Merci Marco.
Merci,
à bientôt dans les grands lieux du sport, évidemment, ou sur les courses, hein, puisque tu seras sans doute à l'arrivée à Audenarde dimanche. Et
évidemment.
Et évidemment, il peut pas louper ça. Il y a beaucoup de courses qu'il loupe, mais celle-là, il la loupe pas. Merci Marco. Bonne soirée. À bientôt. Merci
Salut.
Arnaud également Merci d'avoir Christophe. Été avec moi. Bon voyage.
Ben oui. Hein,
demain, bon, direction Anvers. Et puis Audenarde, donc, pour l'arrivée de cette course.
Et ça sera dimanche toute la journée en direct sur RMC.
Évidemment.
Avec Maître Guim.
Avant de passer la main à Timothée Mémon dans un instant pour l'after, un petit mot, on va parler de foot, mais pas de foot sur un grand terrain, on va parler de futsal avec le gardien de l'équipe de France qui est avec nous. Bonjour Jamel Haroun.
Oui, bonsoir à vous.
Bonsoir Jamel. Juste un petit mot, on parlait de Paris-Roubaix avec Marc Madiot. Roubaix, vous connaissez bien, vous êtes originaire du coin. J'imagine que pour tous les Roubaisiens, ça doit être un crève-cœur, même si c'est pas votre sport, bah que la grande course n'ait pas lieu le dimanche 11 avril.
Oui, tout à fait. Franchement, c'est quelque chose qui nous manque déjà depuis l'année dernière. Et là, de se le voir au dernier moment qu'on décale ça au mois d'octobre, c'est un crève-cœur, mais bon. Je pense que le contexte actuel fait que c'est un petit peu compliqué et on patientera pour voir cette belle course au mois d'octobre.
Et évidemment. Jamel, donc vous êtes le gardien expérimenté, 150 sélections, c'est ça je crois avec l'équipe de France de futsal, hein?
Tout à fait.
Voilà. Engagé dans des éliminatoires compliqués pour aller à l'Euro, où en est l'équipe de France et où en êtes-vous justement de ces qualifs? Est-ce que le billet va pouvoir décrocher et d'ici combien de temps?
Bah écoutez, c'est la dernière ligne droite. On saura ça à partir du 14 avril en fin de journée, à l'issue du dernier match contre l'Arménie. Mais dans un premier temps, il va falloir aller s'offrir une finale contre l'Arménie en battant la Géorgie chez eux le 9 avril. Ça sera à Tbilissi. Donc un match qui va être très compliqué. Savoir qu'au futsal, dans cette poule-là, quand on parle d'Arménie, Géorgie et Russie, on va dire que c'est une poule un petit peu biaisée avec toutes ces naturalisations de joueurs étrangers, brésiliens, portugais, espagnols. Donc voilà pourquoi c'est cette qualif, elle est un petit peu mal engagée, parce qu'on a démarré par deux matchs nuls et deux défaites contre l'ogre, le vice-champion du monde contre la Russie. Et là aujourd'hui, on a une dernière ligne droite qui est très compliquée, mais bon, qui est très excitante aussi en même temps.
Ouais. Mais la hiérarchie en futsal, elle est bien différente de celle du football traditionnel. Jamel, je lisais une interview vous concernant. Vous parliez du Kazakhstan la semaine dernière, qui a été l'adversaire de l'équipe de France. Bon, en matière de foot traditionnel, Kazakhstan, c'est pas des flèches, mais en revanche, en matière de futsal, c'est des épées. Hein. Donc la hiérarchie est pas du tout la même dans votre discipline.
Non, mais vraiment pas. Comme je vous dis, la différence qu'on a que par rapport au foot à 11 et au futsal, bon déjà le futsal n'est pas aussi médiatique et aussi populaire que le football. Et le fait d'être très peu sur un terrain, donc 4 joueurs et un gardien de but, permet à certaines nations de pouvoir naturaliser 1, 2, voire 3 joueurs, même pour certaines 6 joueurs étrangers, notamment les Brésiliens qui sont les maîtres à jouer, les maîtres incontestables du futsal mondial. Et de naturaliser, de pouvoir être performant et de pouvoir performer sur les terrains à tous les coups. Aujourd'hui, quand on regarde le dernier Euro et qu'on a 40 joueurs d'origine brésilienne qui ont évolué pendant l'Euro 2018, on se pose aussi parfois des questions, est-ce qu'on joue un Euro ou une Coupe du Monde ?
Évidemment. Jamel, le métier de gardien de but au futsal, il se rapproche plus du métier de gardien de but de foot traditionnel ou du gardien de but de hand ?
Bon, écoutez, c'est un mixte, mais franchement, je veux dire qu'il est quand même à part. Souvent, on nous qualifie de gardien de handball, mais on a des trajectoires totalement différentes. On a des trajectoires montantes, descendantes pour le handball.
Ouais,
par contre, le futsal, c'est plutôt du bas vers le haut. Donc, c'est un petit peu différent. Il faut être explosif, il faut savoir anticiper, être un petit peu aussi kamikaze, on va dire, comme les gardiens de balle. Mais il faut avoir surtout une bonne lecture de jeu et avoir des bons réflexes.
Ouais, en fait, vous pourriez jouer à la fois au foot à 11 et au hand, quoi, en gros.
Tout à fait. Mais pas trop longtemps. Il faut pas trop rester au foot seul, hein, parce que quand on passe sur un terrain avec un but de 7m32, je peux vous dire que c'est plus la même.
Les plongeons sont pas les mêmes, hein, non plus. Hein, c'est un peu.
Parfois, on dit c'est bon, le ballon est à côté, mais.
vous avez commencé par le foot à 11 ou directement par le foot sale?
Foot à 11 depuis 7 ans.
Ouais. D'accord. Bon, eh ben Jamel, on va vous souhaiter une bonne fin de qualif pour l'Euro. Le prochain match, c'est contre qui? La Géorgie, je crois, c'est ça?
La Géorgie, le match décisif, l'équipe qu'il faut battre pour toujours espérer de se qualifier, hein, et de finir deuxième au moins de cette poule.
Et ce match aura lieu?
Aura lieu le 9 avril à 16h heure française, 18h heure géorgienne. D'ailleurs, vous pouvez suivre le match sur FFF TV. Le lien de FFF TV, vous pouvez cliquer dessus et ce sera 16h, coup d'envoi, et on espère avoir du monde qui nous encouragera à distance.
Évidemment, à distance, derrière les petits écrans. Merci beaucoup, Jamel Haroun, et bonne qualif. Donc, on espère vous voir à l'Euro, comme les autres, comme merci. Les grands à 11. Merci, Jamel.
Un grand merci à vous. Bonne soirée.
À très bientôt.
Au revoir.
Voilà, 20h58, c'est terminé pour le RMC Sport Show. Il y en a un autre de joueur de futsal là qui est à mes côtés, Timothée Mémon. Enfin, pas au même niveau quand même.
Préfère les grands terrains. Moi, j'ai besoin d'espace et de mettre des tampons. C'est trop technique le futsal. Ça m'intéresse pas. Hein.
C'est super technique.
Ah, c'est beaucoup trop technique pour moi en tout cas. Ouais. Pas de problème.
Bon, Timothée, plein de choses dans l'after.
Ouais, dans l'after de 3h. De 3h, absolument. On va parler du Paris Saint-Germain parce que même quand on a tout dit, il s'arrange pour qu'on ait des choses à dire. On va parler également de Kylian Mbappé qui a fait une petite sortie médiatique. On sera avec nos drôles de dames. Et puis, tiens, on se pose cette question et je te la pose. Quel est pour toi, architecturalement, le plus beau stade du monde?
Le plus beau stade du monde, le stade du Ray.
Pourquoi pas? C'est un choix comme un autre. Pour ceux qui connaissent le stade du Ray, c'est pas tout
non,
à fait la question.
Non, il n'existe plus en plus. Non,
qui connaissent
non, le plus beau stade du monde. Alors, architecturalement, je sais pas. Mais le stade où il y a la plus belle ambiance que j'ai connue, c'est le stade de Millennium Stadium qui s'appelle Principality. Tu sais pourquoi?
Dis-moi.
Parce qu'il est à 10 mètres du centre-ville, à 10 mètres des pommes. Et ça, c'est magique pour un stade. Et aujourd'hui, on n'a plus ces stades-là, malheureusement.
Il en reste quelques-uns, par exemple celui de Tottenham. On parlera de ça tout à l'heure dans l'after.